France Info.
Bonjour François de Rugy.
Bonjour.
45 degrés, même peut-être un peu plus attendu cet après-midi sur plusieurs départements du Sud-Est. Est-ce que petit, vous pensiez un jour connaître de telles températures en France ?
Je me souviens en tout cas que mes parents ou mes grands-parents parlaient de la canicule de 76. Moi qui étais né en 73, je n'en avais pas de souvenir, mais je sais que ça avait beaucoup marqué les esprits. Et c'était l'idée que ça n'arrivait qu'une fois tous les 20, 30, 40, 50 ans. Et c'était l'idée que peut-être on ne le revivrait jamais. Les gens en parlaient comme quelque chose de totalement exceptionnel. Et j'ai connu la canicule de 2003, évidemment. Là, je m'en souviens très bien. Et on voit maintenant toutes les statistiques rejoignent ce que chacun peut ressentir. C'est-à-dire que ça devient malheureusement presque banal. Ça devient presque la norme de se dire chaque été, même parfois, nous sommes au mois de juin. En 2003, c'était au mois d'août. Donc même au tout début de l'été, des canicules, des sécheresses prolongées. Mais aussi, je le rappelle, à l'automne ou en hiver, des phénomènes de tempêtes très violentes, des pluies aussi très violentes. Donc malheureusement, nous pouvons toucher du doigt, ressentir au sens propre du terme, le réchauffement climatique, les effets du dérèglement climatique.
Renaud Delisle. Ça signifie que ces épisodes caniculaires, ils vont se répéter, se renouveler et qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec, donc il faut qu'on change nos modes de vie, notre vie quotidienne.
Oui, il y a deux sujets autour du dérèglement climatique. Il y a la lutte contre les causes du dérèglement climatique, la lutte contre l'effet de serre. Et là, quand on parle d'effet de serre, on voit ce que c'est. Hein. C'est comme si nous étions sous une serre. Et puis par ailleurs, il y a l'adaptation. Nous sommes aussi obligés de nous adapter. Car si on ne s'adapte pas, évidemment, il y aura des personnes qui en souffriront. Et voire, on le sait, ce sont des risques de décès. C'est pas simplement être incommodé par la chaleur. C'est comme en 2003. En 2003, ça a été démontré ensuite par des études médicales. Il y a eu bien sûr des décès liés à l'isolement des personnes, à un manque de mesures de précaution. Mais il y a eu aussi des décès, par exemple, liés à la pollution. À la pollution à l'ozone. Moi, j'ai souhaité qu'on en tire les conséquences immédiatement parce que je ne voulais pas qu'on expose un certain nombre de Français à cette pollution invisible, qu'on ne sent pas, mais qui frappe durement ceux qui ont des maladies cardiovasculaires ou des maladies respiratoires.
Sur la question des transports, par exemple, François de Rugy, est-ce qu'il faudra aller plus loin prochainement que la circulation différenciée dont on a aperçu les limites cette semaine, par exemple, en Île-de-France, lorsqu'elle a été mise en place, on a constaté qu'il y avait davantage de bouchons qu'un jour ordinaire.
Oui, mais en revanche, je tiens quand même à dire, parce que nous avons les chiffres, lundi, il y avait eu non seulement une prévision d'augmentation de la pollution à l'ozone. L'ozone, c'est un polluant qui se forme sous l'effet de la chaleur. Hein, donc, c'est pas un polluant qui est émis directement par des cheminées ou par des pots d'échappement. Et ensuite, nous avons immédiatement décidé, quand nous sommes rendus à Air Paris, pour l'Île-de-France, mais c'est la même chose à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Grenoble, de déclencher la circulation différenciée pour le mercredi, voyant que la tendance était à l'augmentation.
Les effets sont visibles dans les chiffres
mercredi,
que vous avez.
Mercredi, il y a eu une inflexion, alors que c'était évident que la courbe était partie pour augmenter, nous avons réussi à baisser. Et donc, nous restons d'ailleurs en dessous des seuils d'information. Nous sommes restés, heureusement, loin des seuils d'alerte. Je n'ai pas encore les résultats pour
la
journée d'hier.
Est-ce que j'ai demandé, il y a encore une demi-douzaine de villes ou d'agglomérations? Ça va continuer dans les jours qui viennent, a priori.
Et nous sommes obligés de continuer à prendre ces mesures d'urgence, qui sont des mesures pour faire face à une crise. Mais heureusement, nous prenons par ailleurs des mesures de fond tout au long de l'année pour réduire la pollution de l'air. Tout au long de l'année, et c'est ce qu'on appelle les zones à faible émission. D'ailleurs, pour la région parisienne, elles vont être testées à partir du 1er juillet, c'est dans quelques jours, du 1er juillet prochain, pendant un an en phase expérimentale, et à partir de 2020, de façon définitive. Donc ce seront des mesures permanente de gestion de la circulation, restreinte à certains endroits, sélective aussi par rapport aux véhicules les plus polluants à d'autres endroits, et ainsi de suite.
Donc les premiers grands départs en vacances qui sont aujourd'hui ou demain se feront pour certains en circulation différenciée avec des interdictions de circuler, où il y aura une tolérance
Bien sûr, pour les Françaises et les Français qui partent, voilà, qui quittent les villes, on ne va pas les empêcher de partir en vacances parce que leur voiture n'aurait pas le critère 0, 1 ou 2.
Mais vous savez qu'un argument comme ça, tous ceux qui pourraient être tentés de frauder
non, parce que
vont
quand
le faire
même,
en disant si de toute façon on nous annonce qu'il n'y a pas de PV. C'est ce qu'on a fait hier à Marseille, François Daugé a annoncé qu'il fallait une vignette, mais que si on ne l'avait pas, il n'y avait pas de PV.
Oui, mais
c'est quand même un tout petit pas.
Oui, mais d'un autre côté, quand on propose des mesures contraignantes, il y a tout un tas de gens, y compris dans le débat politique. Hein, je ne parle pas des Français, des automobilistes qui peuvent être sincèrement gênés.
Pourquoi est-ce qu'on verbalise à Paris et à Lyon, mais pas à Marseille, par exemple ?
Mais parce que à Marseille, ça n'avait jamais été fait. à Marseille, on n'avait jamais fait la circulation différenciée. Moi, quand j'en ai parlé, d'ailleurs, on m'a dit, mais c'est la révolution. À Marseille, on n'envisage même pas l'idée, alors que Marseille est soumis à la pollution depuis très longtemps. Et l'agglomération, d'ailleurs, d'Aix-Marseille, parce que c'est pas simplement Marseille, subit la pollution de l'air. C'est-à-dire, les habitants, les Marseillaises et les Marseillais, ils subissent la pollution de l'air depuis longtemps, au moins autant qu'à Paris. Et pourtant, on n'avait jamais pris. C'est le premier gouvernement qui demande au préfet de prendre des mesures. Moi, j'ai souhaité que nous prenions des mesures sans attendre. C'est la première fois. Sans attendre qu'on constate le pic de pollution. Avant, on attendait 3 jours de pic de pollution constaté pour commencer à agir. Ce qui faisait qu'on arrivait à contre-temps. Souvent, on commençait à prendre les mesures quand le phénomène était déjà en déclin.
Parce que les pouvoirs publics rechignent encore à prendre des mesures contraignantes, justement, comme vous disiez. Alors qu'au vu de la gravité de la situation, est-ce qu'il ne faut pas se résoudre à prendre des mesures, y compris très impopulaires?
Moi, j'ai assumé de demander au préfet de police de Paris, qui avait travaillé à ma demande sur justement des mesures plus efficaces, mais de fait plus contraignantes que ce qui avait été fait par le passé. J'ai demandé au préfet de Lyon, du Rhône, de faire de même, et ainsi de suite. Alors que dans certaines villes, les élus locaux ne le demandent pas. Et notamment, c'est la différence entre Marseille et Paris ou Lyon. À Lyon, le président de la métropole de Lyon, Monsieur Klimmelfeld, me l'a demandé, nous avons échangé. Je n'ai pas eu la même demande à Marseille.
Et vous dites donc, par exemple, aux auditeurs marseillais qui nous écoutent en ce moment, là c'était pour du beurre, mais la prochaine fois, il y aura des PV pour ceux qui ne l'ont pas.
C'est pas pour du beurre, c'est on se met en situation de tester. On demande aux automobilistes une forme d'autorégulation, mais bien sûr, il y a un moment où quand on ne respecte pas les règles, on est sanctionné. Oui, c'est normal, c'est comme ça, c'est jamais populaire. En effet, vous savez, les PV sur la route, c'est jamais populaire. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de sanction, c'est bien que la règle n'est pas très longtemps appliquée.
Vous y croyez encore à l'autorégulation à Marseille ou ailleurs? Vous pensez que ces citoyens peuvent s'autodiscipliner?
Je constate que les Françaises et les Français sont de plus en plus nombreux à non seulement se préoccuper de la qualité de l'air, se préoccuper d'écologie et même à changer leur comportement.
Vous savez d'un mot combien de Français ont leur pastille désormais?
Oui, il y a plus
de la vignette critère.
Oui, il y a plus de 11 millions d'automobilistes qui ont fait la demande de la vignette. Ça, c'était avant le déclenchement.
Sur un parc automobile de...
Ça fait une voiture sur trois.
Une voiture sur trois seulement.
Oui, mais attendez.
C'est-à-dire qu'il y en a 2 sur 3 aujourd'hui qui n'a pas la vignette.
Oui, mais c'était une mesure avant qui était virtuelle. On disait équipez-vous d'une vignette, mais on ne l'utilisait jamais. Maintenant, on l'utilise non seulement quand il y a des pics de pollution, comme ces jours-ci, mais aussi, on va le faire durablement. Parce que les mesures qui vont être prises à Paris à partir du 1er juillet, dans le cadre donc, de cette zone à faible émission, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, des secteurs où on souhaite faire vraiment baisser les émissions de pollution, mais aussi d'ailleurs les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ce sera permanent. Donc, ce sera un mode de gestion maintenant régulier pour faire baisser la pollution.
François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, est notre invité pour 20 minutes encore sur France Info. Il est 9h-20. Stéphane Milhomme vient de nous rejoindre pour nous résumer l'actualité de ce vendredi matin.
45 degrés, c'est la température maximale attendue par Météo France à Nîmes. C'est une première. 4 départements sont en vigilance rouge. Le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. 76 départements de l'Ille-et-Vilaine à la Corse, eux, sont en vigilance orange. La canicule synonyme de pollution de l'air aujourd'hui encore. La circulation différenciée est reconduite à Paris toute la journée. Également Marseille, Strasbourg, Lyon, Grenoble et Annecy. Mesures accompagnées bien souvent de réduction de vitesse. Jean-Claude Roman est sorti de prison à 3h30 ce matin en véhicule banalisé. Il était incarcéré à la prison de Châteauroux. Le faux médecin bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle. Il avait été condamné à la perpétuité en 1996 après avoir tué 5 membres de sa famille dans le pays de Gex. Et puis les footballeuses de l'équipe de France dès 21h face aux Américaines au Parc des Princes. La suite des quarts de finale du Mondial. Les Bleus restent sur 4 échecs en quart de finale. Direction les demi pour les Anglaises, plus fortes hier soir que la Norvège, 3-0.
Encore un mot avant d'avancer, François de Rugy, toujours sur ces vignettes critères. Est-ce qu'on peut envisager que dans les jours qui viennent, si l'épisode de canicule dure, ce qui semble être le cas au moins jusqu'au premier jour de la semaine prochaine, on interdise également les vignettes dans certaines villes 2, voire 1, c'est-à-dire les voitures les plus récentes?
Non, parce que, vous savez, déjà, en ayant interdit les critères 3, ça fait déjà un tiers des véhicules qui ne peuvent plus circuler. Un tiers des véhicules qui sont à l'origine de 2/3 de la pollution. Donc il y a une logique à tout cela. Mais c'est déjà très restrictif. Vous avez d'ailleurs un journal qui a titré sur des millions de voitures qui doivent rester au garage. Donc ce sont des mesures en effet restrictives contraignante. Nous sommes conscients de ce que ça, d'ailleurs, implique comme changement pour les Français dans leur vie quotidienne. Ce sont des mesures d'urgence parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Mais encore une fois, je veux insister sur le fait que, par ailleurs, nous agissons dans la durée, dans le fond. À ce moment-là, c'est comme les pics de pollution. On en parle quand il y a le pic, puis après, on n'en parle plus. Voilà, il y a un pic médiatique autour de la pollution quand il y a un pic de pollution. Moi, je continue à y travailler le reste de l'année. Vous savez, le dernier pic de pollution, il n'avait rien à voir avec celui de ces jours-ci. Il est au mois de février. C'était pas sur l'ozone, qui est un polluant donc très nocif, c'était sur les particules fines. Mais vous disiez tout à l'heure, la vignette, les vignettes critères, finalement, est-ce que ça sert? Ben, je peux vous dire qu'en tout cas, les constructeurs automobiles se battent pour que leurs voitures, à leur catalogue, soient dans la bonne vignette, puisque vous savez que, par exemple, sur le diesel, il y a des gens qui veulent réintégrer dans le critère 1.
Et c'est
1.
Non, c'est définitif.
Non, nous avons dit, justement, que nous ferons une analyse scientifique. Et moi, j'ai souhaité, comme toujours en matière d'écologie, qu'on s'appuie sur la science, et il va y avoir donc un protocole qui sera co-réalisé par les constructeurs automobiles et les associations de protection de la nature et de la santé pour vous savoir vraiment ce qu'il en est.
Renaud Dely.
Vous évoquez les mesures contraignantes, les mesures restrictives, vous le dites, que vous êtes contraint de prendre donc dans l'utilisation de la voiture au quotidien par les Français. Il y a deux jours, c'était mercredi, il y a un député, le député insoumis de la Somme, François Ruffin, qui vous a interpellé parce qu'il s'est rendu dans la cour de l'Assemblée nationale, il s'est filmé et il a constaté que...
Mais c'est surtout ça, il aime beaucoup se filmer.
Hein. On va l'écouter dans un instant. Parce que il a constaté que pendant la séance des questions au gouvernement, mais pendant que les ministres prenaient des engagements écologiques, dans la cour de l'Assemblée nationale, les voitures de ministres continuaient de tourner.
Là, on est dans la cour de l'Assemblée, tu vois, et il y a toutes les bagnoles qui se garent et qui continuent de tourner pendant le temps de l'Assemblée. Le ministère de l'écologie, j'ai regardé, il est à 800 mètres, il me semble. Je vais vérifier, j'ai regardé sur ma piste. 600 mètres à pied. 8 minutes, c'est là, quoi, juste à côté. Ça n'a pas l'air de poser problème.
600 mètres à pied pour aller du ministère à l'Assemblée nationale, c'est une éventualité que vous avez envisagée?
De le faire à pied?
Oui.
Ah, mais évidemment, je le fais très souvent à pied.
Là, c'est pas le cas.
Même
là,
si,
pas
non,
cas.
Mais en l'occurrence,
vous,
dans le film en question, moi, je ne suis pas dans ce film. Et Monsieur Ruffin ment, comme très souvent, puisqu'il dit, François de Rugy laisse sa voiture tourner, moteur allumé, alors que c'est faux. Moi, j'ai une voiture électrique. Les voitures de mon ministère, c'est des voitures électriques pour les déplacements Paris.
Vous êtes le bon élève du gouvernement, c'est pas le cas de votre collègue.
Oui, mais moi, je vais vous dire une chose. Et là, en effet, typiquement, adaptation à ces conditions qui risquent d'être récurrentes. Bah oui, dans la cour de l'Assemblée, où les voitures, les chauffeurs, les officiers de sécurité sont là, eh bien, ils attendent en plein soleil. Donc évidemment, il y en a qui font tourner le moteur pour ne pas être en plein soleil. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée, il n'y a pas d'endroit pour les accueillir correctement à l'ombre et dans un espace rafraîchi. Donc ça va être changé. Et par ailleurs, les ministres, évidemment que quand nous pouvons, en tout cas moi, quand je peux aller à pied de mon ministère à Matignon ou aux autres ministères, je le fais. Mais pour autant, il faut aussi...
On le voit dans d'autres pays, on le voit en Europe du Nord, on le voit aux Pays-Bas, il y a le Premier ministre néerlandais qui circule à vélo, Marc Rutte. Pourquoi est-ce que les ministres français ne montre pas l'exemple, au-delà du fait de retirer sa cravate, pourquoi est-ce que vous ne circulez pas à vélo ou à pied régulièrement?
Je le fais autant que possible. Après, vous le savez, il y a des questions de sécurité. Moi, je ne veux pas faire de la démagogie. Moi, quand je suis devenu président de l'Assemblée nationale ou quand je suis devenu ministre, on m'a flanqué d'un officier de sécurité. On m'a dit, voilà, c'est la règle parce que il y a des menaces sur les personnalités politiques, membres du gouvernement. Vous avez vu que ces derniers mois, d'ailleurs, cette question des menaces, c'était pas quelque chose qu'on avait inventé. Et donc, pour assurer cette sécurité, vous ne pouvez plus conduire votre propre véhicule. Moi, vous savez, j'ai un véhicule hybride électrique rechargeable à Nantes. Mais il est au garage parce que je peux plus le conduire. Parce qu'on me dit, on peut pas assurer votre sécurité si vous conduisez vous-même votre véhicule. Et deuxièmement, on ne souhaite pas que vous fassiez du vélo. Parce que c'est plus difficile d'assurer votre sécurité si vous êtes à vélo. Et on se souvient tous de ces images d'une ministre qui certes était à vélo, mais qui était encadrée de voitures et de motos. Hein, donc le bilan carbone, il était tout aussi mauvais. C'était le plaisir de faire du vélo. Moi, je suis le premier. Vous savez, moi, je fais du vélo depuis ma plus tendre enfance. Donc j'adore me déplacer en ville à vélo. Mais en revanche, il y a ces questions de sécurité. Alors Monsieur Ruffin peut faire de la démagogie. Ça, évidemment, il n'en parle pas. En plus, il ment. C'est un peu gênant. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, je pense qu'un député, plutôt que de faire des petits films, ce serait bien qu'il fasse des propositions.
Il en a fait une.
Et des propositions. Oui, des propositions concrètes et efficaces pour lutter contre la pollution de l'air, contre le dérèglement climatique.
Précisément, il en a fait une qui a été soutenue aussi par d'autres députés de gauche. C'est l'interdiction des lignes aériennes intérieures dès lors que le même trajet peut être fait en train dans une durée à peu près équivalente.
Pas dans une durée équivalente. Il a dit pour les trajets de moins de 3 heures
en train. 3 heures. Voilà. 3 heures en train, c'est pas insurmontable.
Il a même publié, par exemple, je peux vous le dire. Moi, j'ai regardé. Je regarde toujours les propositions.
C'était
une bonne idée. Il a même fait un tableau avec, en gros, les endroits où ça changerait quelque chose et ceux où ça ne changerait pas. Donc, j'ai découvert, par exemple, que Paris-Agen, vous n'auriez plus le droit de le faire en avion, mais Paris-Biarritz, vous auriez encore le droit de le faire en avion. Vous voyez jusqu'où ça va.
Pourquoi Paris-Lyon, Paris-Marseille, effectivement, pourquoi ces lignes aériennes-là, dès lors que le TGV permet de se rendre?
En revanche, quand j'ai dit faire des propositions, très bien, voilà, ça c'est une proposition concrète, ok.
Pourquoi vous y êtes opposé?
Mais ça, ça concerne, faut pas mentir aux Français. Parce que là, ce qu'ils laissent entendre, c'est qu'on pourrait régler le problème de l'effet de serre en France, enfin des émissions de gaz à effet de serre, avec cette proposition. Vous savez combien ça concerne d'émissions de gaz à effet de serre en France? Les vols intérieurs? Et alors, a fortiori, les vols intérieurs sur lesquels on pourrait faire en TGV? Moins de 1%. Donc, bien sûr qu'il faut traiter la question du transport aérien.
C'est précisément la politique des petits pas que vous défendez?
Non. C'est pas du tout la politique des petits pas. C'est la politique des symboles qui écrasent la réalité. C'est, on fait croire aux Français qu'il suffit d'agiter un symbole. Alors ça, il est très fort, monsieur Ruffin. Comme les gens de la France insoumise en général, on agite des symboles, des chiffons rouges. Ils disent même que rétablir l'ISF, ça va lutter contre l'effet de serre. Je vois pas bien le rapport. Donc, si vous voulez, à un moment donné, moi, je suis dans l'action sur la question du transport aérien. Nous battons en Europe et dans le monde pour que le transport aérien contribue à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Oui, il faut qu'il y ait une contribution, y compris fiscale, une taxe sur le kérosène à l'échelle européenne, parce que c'est là que ce sera efficace. C'est là qu'il n'y aura pas des effets de fuite, d'évasion fiscale sur le carburant, si on le faisait qu'en France.
On peut taxer le kérosène en France en attendant d'obtenir un accord
européen. En tout cas, on peut envisager des dispositifs qui, sans faire en sorte que les compagnies aériennes aillent faire le plein dans les pays voisins, permettraient d'avoir une contribution de transport aérien. Mais vous savez que sur un billet d'avion, Paris-Nice, par exemple, aujourd'hui, même M. Ruffin, il ne propose pas d'interdire Paris-Nice. Eh bien, sur un billet d'avion de 100 euros, il y a 50 euros de taxes. C'est pas 50 euros de taxes sur le kérosène, c'est 50 euros de taxes sur les aéroports. Alors qu'en Suède, le pays dont qu'on nous a cité en exemple sur le sujet de l'avion, c'est 30 euros. Donc vous voyez, il faut comparer ce qui est comparable. Nous allons d'ailleurs publier le comparatif complet de ce qui se passe en Europe parce que nous voulons mener la bataille européenne sur la taxation du kérosène et mener la bataille mondiale. Parce que Monsieur Ruffin, qui fait des petites vidéos dans la cour de l'Assemblée, non seulement il s'en fiche complètement de mener des batailles européennes et mondiales, mais il pense que c'est pas bien, qu'il faut faire que à l'échelle de la France. Vous savez, le souverainisme de la France insoumise comme du Front National, c'est des gens qui pensent que ça sert à rien de mener des batailles internationales. Eh bien, sur le transport aérien, il faut absolument, comme sur le transport maritime, mener la bataille internationale.
On poursuit dans quelques instants cet entretien. François de Rugy, 8h50, l'actualité avec Stéphane Milhomme sur France Info.
Et tout d'abord, une douzaine d'heures de retard pour les passagers d'un train dans la chaleur la nuit dernière. Ces voyageurs sont finalement arrivés vers 8h15 ce matin à Clermont, dans une autre rame. Un intercité Paris-Clermont-Ferrand a été bloqué après la rupture d'une caténaire. L'installation a fondu, selon la SNCF. Le train était censé arriver à 21h15 hier soir. Un jeune de 24 ans est mort noyé hier en fin d'après-midi à Frignicourt, dans la Marne. Selon France Bleu Champagne-Ardenne, il se baignait avec des amis dans la Marne pour se rafraîchir en raison des fortes chaleurs. Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Hérault et le Gard. Pour la première fois, ces quatre départements sont en vigilance rouge face à cette canicule. Météo France attend 45 degrés par exemple à Nîmes. Forte chaleur également en Bretagne dans une moindre mesure avec un 34 degrés enregistré hier à Brest. Les 33 degrés de juin 1976 ont été battus. Et puis l'invitation de Marion Maréchal à l'Université d'été du MEDEF crée des remous quelques jours après un repas avec des élus Les Républicains. L'ancienne députée du Rassemblement National doit participer fin août à ces rencontres des entrepreneurs de France. Les députés macronistes menacent déjà de boycotter le rendez-vous.
France Info. François de Rugy, il y a quelques années, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, avait promis que s'il arrivait à l'Élysée, il retirerait tous les logements qui sont considérés comme des passoires thermiques, c'est-à-dire les logements qui sont le moins bien isolés en France. La loi vient d'être votée à l'Assemblée. La mesure n'y figure pas.
Elle n'est pas encore votée.
Oui. En tout cas, la mesure n'y figure plus. Pourquoi ?
Une loi sur l'énergie et le climat, en pleine canicule, on ne pouvait pas trouver mieux comme exercice concret la réalité vécue et ce que nous voulons changer.
On sait que la France n'arrive pas à faire des économies, notamment sur cette question du logement. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à une mesure plus radicale?
En effet, la question du logement est une question centrale puisque c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au logement et au bâtiment. Et en tout cas, nous n'avons pas assez de résultats aujourd'hui dans ce domaine.
Donc est-ce qu'on en revient au programme d'Emmanuel Macron et est-ce qu'on l'applique?
Alors, en l'occurrence, nous avons décidé, je l'ai présenté hier soir, ça n'a pas encore été adopté parce que c'est souvent assez lent à l'Assemblée nationale, mais j'ai présenté l'ensemble des dispositifs que nous allions mettre en œuvre, non seulement pour lutter contre ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire ces logements pour ceux qui ont fait des diagnostics de performance énergétique à l'occasion d'une vente ou d'une location de logement.
F
savent
et
ce que
G, c'est-à-dire
c'est
les
classes ouais. F et G. Voilà. Donc pour sortir un certain nombre de logements.
Ça représente quelle proportion des logements
aujourd'hui,
en France,
il y a 7 millions de logements qui sont dans ces classes F et G. Donc, vous voyez l'ampleur du problème.
Donc, Emmanuel Macron avait promis un peu vite.
Il y en a à peu près la moitié qui sont en location. L'autre moitié, les propriétaires habitent dedans. Donc, nous avons ce problème à traiter. Déjà aujourd'hui, nous mettons en œuvre un certain nombre de mesures, mais il faut amplifier. Donc, nous avons dit que nous ferions les choses, en trois vagues. Une première vague fondée sur l'incitation, la mobilisation des aides qui vont être simplifiées. Les Français qui feront des travaux pourront avoir l'aide dès le déclenchement des travaux et pas simplement un an et demi après en remboursement de crédit d'impôt, etc.
Ça nous emmène en quelle année ?
Ça va être mis en œuvre dès l'année prochaine.
Mmh. La première phase incitative, elle s'arrête quand ?
Et c'est une phase, en gros, on fait ça par phase de 4 ou 5 ans.
Donc c'est pour le quinquennat d'après.
Et ensuite, nous allons travailler là-dessus immédiatement à la demande des députés de la majorité qui ont fait un gros travail avec le gouvernement sur une obligation de rénovation. Donc là, c'est la deuxième phase où on va définir, parce qu'il faut définir tout ça, il faut être précis, il faut travailler concrètement sur, en gros, un certificat. Qu'un logement, il est un certificat de conformité ou de non-conformité par rapport à la question de la consommation d'énergie. Mais aussi qu'on renforce, dès maintenant, l'information des futurs acheteurs de logements ou des futurs locataires. Aujourd'hui, vous savez si c'est la classe A, B, C, D, E, F, G, etc. Mais enfin, vous savez pas combien coûte le chauffage de votre logement. Dans une annonce immobilière demain, vous serez obligé de dire voilà quelle est la facture que vous aurez si dans ce logement vous le prenez tel quel et que vous ne faites pas de travaux. Et ainsi de suite. Et puis ensuite, dans une troisième phase, mais sur laquelle nous allons travailler dans les années à venir, bien sûr, il y aura un moment donné où il y aura un certain nombre de contraintes pour que ces travaux soient réalisés. Ce que l'on sait, c'est que ça va permettre ces 7 millions de logements de les traiter sur cette durée progressivement. Vous voyez bien, c'est concret. Si on voulait le faire en 5 ans, 7 millions de logements, il faudrait en faire quasiment 1 500 000 par an. Si vous le faites sur 10 ans, 700 000 et ainsi de suite.
À l'instant, François Drugy, le patron des patrons Geoffroy Roux-de-Bézieux, annonce qu'il renonce à inviter Marion Maréchal à l'université d'été du MEDEF qui aura lieu cet été. C'est une décision de sagesse ?
Oui, parce que je partage tout à fait ce qu'a dit Roland Lescure, le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée, qui lui-même devait aller aux universités du MEDEF et qui a dit en effet qu'on ne voit pas bien ce qu'elle venait faire là, sinon pour créer une sorte, là aussi, de buzz politico-médiatique et valoriser une personne qui, par ailleurs, n'a même plus de mandat aujourd'hui et qui défend des idées extrémistes.
Quel sens avait initialement cette initiative à vos yeux ? Qu'est-ce qu'elle signifiait du débat politique aujourd'hui ou de la banalisation de Marion Maréchal ?
J'espère que ce n'était pas l'idée de certains membres du MEDEF, de certains patrons, de dire bah, finalement, voilà peut-être l'avenir politique de la France. J'espère que ce n'était pas cette idée-là. J'espère que ce n'était pas simplement l'idée de faire un coup médiatique ou un coup politique. Donc, à un moment donné, si ces universités d'été du MEDEF sont des moments pour réfléchir entre dirigeants économiques et politiques sur la meilleure politique économique de la France, je pense que c'est en effet la meilleure décision qui a été prise.
On ne peut pas débattre avec Marion Maréchal, d'après vous ?
Ah, on peut, bien sûr.
Y compris de ces sujets-là, de l'avenir économique de la France.
Mais là, en l'occurrence, elle n'est pas Marion Maréchal, elle n'a plus de mandat politique. À une époque, elle était députée. Moi, je débattais
si
avec elle à l'Assemblée
si
nationale.
Elle avait
non, mais
députée,
moi, je débattais avec elle à l'Assemblée nationale.
Si elle avait été encore députée, François Drugy, si, son invitation à l'université du MEDEF ne vous aurait pas choqué.
Non, mais est-ce que moi, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus de l'organisation de l'université du MEDEF. Ça, c'est au MEDEF de s'expliquer.
Non, mais si on vous invite, par exemple, compris, à débattre avec elle, vous y allez ou pas ?
Je n'ai pas compris qu'on lui. C'était un débat qui était organisé. C'était plutôt une tribune qui lui était offerte.
C'était un débat sur les populistes.
Geoffroy Roux-de-Bézieux annonce, d'ailleurs, pour être précis, qu'il annule l'intervention de tous les autres intervenants prévu à cette table ronde, y compris ceux de la France Insoumise qui étaient invités. Si on vous invite, vous, à débattre avec elle, vous y allez ?
Ah mais moi, si vous m'invitez, par exemple, ici sur France Info, à débattre avec quelqu'un du Rassemblement National, je serais assez intéressé de le faire, voyez-vous, par exemple, sur le climat. Parce que sur le climat, les Français ne le savent pas, y compris peut-être ceux qui votent pour Madame Le Pen. C'est que Madame Le Pen, par exemple, à l'Assemblée nationale, avait déposé des amendements. Elle n'est pas venue les défendre, mais on les a, ils sont écrits, hein, où elle est pour supprimer le Haut Conseil pour le climat. Elle est pour supprimer l'objectif de neutralité carbone à l'échéance de 2050, c'est-à-dire vraiment l'objectif le plus ambitieux en matière de climat. Et ce serait intéressant, en effet, de débattre avec Madame Le Pen, qui, elle, Marine Le Pen, est députée, mais ambitionne de se présenter aux élections, et qui, en matière d'écologie et de climat, fait vraiment partie de ceux qui veulent ne rien faire.
10 secondes, François de Rugy, vous serez devant le match ce soir ?
Eh bien, ça dépend de l'avancée des débats à l'Assemblée nationale. Je crains que non, car les débats à l'Assemblée nationale sur la loi énergie-climat, qui permettent de renforcer l'ambition de la France.
Vous pourriez faire des pauses pendant le match.
Ah oui, mais un match, ça dure quand même avec la mi-temps, 2 heures, et c'est justement les heures où nous débattons à l'Assemblée. Parce que les Français ne le savent pas toujours, mais nous débattons, y compris en soirée.
Et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron et Donald Trump peuvent le regarder ensemble au G20 d'Osaka, ce match, ce soir ?
Ah, là, je n'ai pas d'indication sur le sujet. Je ne sais pas si M. Trump s'intéresse beaucoup au football féminin.
Et je suis pas sûr qu'il ait envie de passer ensemble,
qu'il porte sur les femmes parfois,
merci,
malheureusement.
Merci à vous, François Drugy. Dans une minute trente, il sera 9h. Bonne journée à vous.